Avec James et Vincent, nous avons choisi de suivre l'évangile selon Marc pour ce temps de Pâques. Et donc pour ce jeudi saint, nous allons prendre dans le chapitre 14, à partir du verset 12, le récit donc de ce dernier repas que Jésus prit avec ses disciples. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: « Où veux-tu que nous allions préparer afin que tu puisses manger la Pâque ?» Et il envoya alors deux de ses disciples et leur dit: « Allez à la ville, un homme viendra à votre rencontre portant une cruche d'eau, suivez-le. Là où il entrera, dites au maître de la maison. Le maître dit: « Où est mon local où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Alors il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête, et c'est là que vous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, ils arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12, et pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit: « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent alors à s'attrister et à lui dire, un par un, « N'est-ce pas moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais pauvre homme, celui par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent à la montagne des Oliviers, et Jésus leur dit « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai réveillé, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit « Même si tous étaient scandalisés, je ne serai pas, moi, scandalisé. » Et Jésus lui dit « Amen. » Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras par trois fois. » Mais Pierre replierit encore plus fortement, « Non, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Alors la suite, c'est pour demain en fait. Mais je voudrais vous lire, pour accompagner ça, puisqu'il est question donc de manger la Pâque, eh bien de prendre dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, les 11 premiers versets qui racontent la première Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an, et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, on en mettra sur les deux poteaux, sur les linteaux de la porte des maisons et on en mangera, on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit ni bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, eh bien vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez mis votre ceinture à la taille, vous aurez mis vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez en vitesse. C'est là la Pâque de l'Éternel. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour, séparer les torchons d'avec les serviettes, là c'est la lecture de la Bible, après vous aurez ce que j'ai préparé pour vous. Pour séparer donc les deux, nous proposons avec Vincent et James de chanter le cantique 243, « Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps », donc les deux strophes du cantique 243. Pourquoi donc est-ce que Jésus organise ce repas? Alors pour dire au revoir à ses amis, comme lors d'un pot de départ à la retraite en fait, déjà. Car effectivement, il y a quelque chose de cette ambiance-là, je pense, lors de ce dernier repas. Comme le dit l'Évangile selon saint Jean, il n'y a plus seulement un rapport de maître à disciple à ce moment-là entre Jésus et ses disciples, mais un rapport d'ami à ami. Et donc il y a quand même une vraie tristesse dans cette séparation, et on va le voir dans la suite avec ce temps où Jésus demande à être accompagné par ses amis, soutenu finalement, même s'il se met à l'écart pour prier, comme il en avait l'habitude de le recommander. Mais quand même, il a besoin de se faire accompagner par ses amis dans ce moment de tristesse, cette prière de douleur, de doute, mais aussi de confiance en Dieu. Donc ce repas qu'organise Jésus, c'est sans doute quelque chose qui est de l'ordre d'un pot d'adieu, mais ce n'est pas seulement cela, finalement pas d'abord cela, car le texte que nous avons entendu nous dit que c'était la Pâque, voilà, Pâque juive. Alors ce n'est pas contradictoire avec l'idée d'un repas d'amitié, mais ce repas est aussi et probablement un sens religieux. À aller chercher donc dans la Torah, parce qu'il en est question du repas de la Pâque à plusieurs reprises. Mais Jésus n'est pas du genre à pratiquer la religion pour la religion. Il définit bien, je crois, son rapport avec la religion quand il est obligé de s'expliquer finalement face à des gens qui le critiquent d'être un peu trop libéral dans sa pratique, donc des règles religieuses. Il répond « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». Et donc si c'est vrai pour le sabbat, qui est le commandement religieux par excellence, qui est même dans le décalogue, c'est encore plus vrai pour les autres commandements, les autres rites religieux proposés par la Torah. Et donc Jésus nous donne ainsi son mode d'emploi, finalement, du rite religieux. C'est donc quelque chose de très concret, très pragmatique. Les rites, les cultes, la prière, la lecture de la Bible sont là en vue du développement de l'humain, de chaque personne humaine et puis de l'humanité ensemble. Et ce n'est pas, voilà, le sens ultime de la vie humaine, ou ce n'est pas des actes qui sont nécessaires en eux-mêmes pour satisfaire Dieu d'une quelconque façon, ou pour gagner des bons points auprès de lui, ou récolter des mauvais points si on ne fait pas tout bien, tout comme il faut. Ce repas de Jésus, présenté donc explicitement comme un acte religieux finalement, est donc pour l'homme, pour le développement spirituel, existentiel, moral de chacune et chacun qui était là ce soir-là, et puis de nous aussi, puisque ça nous est donné à notre méditation à travers le témoignage des disciples, des apôtres, et puis c'est pour le développement de l'humanité aussi. L'agneau sacrifié pour le jour de la Pâque est un agneau donc qui n'est pas mangé tout seul dans son coin, mais qui est mangé en famille, un agneau qui est partagé avec les familles pauvres des environs afin que chacun ait ce qu'il lui faut à manger, nous dit donc le livre de l'Exode que nous avons entendu. Et en accompagnement de cet agneau, comme voilà, dans tout bon repas, il n'y a pas que la viande, il y a fois un peu autre chose, il y a donc du pain sans levain, il y a des herbes amères, et ça constitue finalement un menu simple, mais gourmand, équilibré et complet finalement. Même si le pain sans levain exprime la condition d'esclave finalement, d'esclave et de l'urgence de partir, hein, qu'on a entendu hein, dans le récit de l'Exode, même si la salade, la roquette amère évoque peut-être l'amertume de notre situation en ce monde, peut-être les dimensions difficiles qui sont... Enfin voilà, la vie est injuste, donc il y a des situations plus ou moins amères, plus ou moins difficiles, mais ça évoque cela finalement. Et puis l'agneau, lui, c'est délicieux, c'est dégoulinant de graisse, et donc ça évoque vraiment la force qu'on peut prendre et puis ce qu'il y a de meilleur à manger. Et ça évoque donc la force que Dieu nous invite à prendre ensemble avant de nous mettre en route, libérés par Dieu, par des prodiges, pour aller jusqu'à cette vie belle et bonne que Dieu veut pour chacune et chacun d'entre nous et pour l'humanité. Ce repas que Jésus prend avec ses disciples et auquel, bien sûr, nous sommes invités, ce repas a pour but de prendre des forces ensemble, sans oublier personne, nous dit le livre de l'Exode. Un repas qui fait mémoire aussi, bien sûr, et je crois que c'est important, des injustices, de nos pauvretés, de nos esclavages, de l'amertume aussi, de traverser des choses parfois difficiles, parfois très difficiles, cruelles, injustes. Et la situation de Jésus l'est ô combien, donc il sait de quoi il parle. Alors ce repas, il est pour prendre son avenir, notre avenir en main, d'une belle façon, avec courage, avec confiance, faisant mémoire de ce qui ne va pas, mais aussi dans la simplicité, dans la liberté de chacun, dans la communion avec les autres, même, puisque Judas est présent, même de celui qui va dire non, même de celui qui dit non, à qui on signifie qu'il compte et qu'il a sa place. Ce repas, oui, nous rappelle à prendre conscience que c'est aujourd'hui, dans l'urgence, qu'il faut se mettre en route. Alors que l'agneau immolé, le pain, les herbes soient ainsi mangés le jour de la Pâque, cela tranche avec d'autres fêtes, d'autres rites religieux qui sont proposés dans la Torah. Par exemple, les sacrifices de Caïn et Abel. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel, de son côté, en fit une offrande, donc des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel, nous dit le livre de la Genèse, porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, et Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu, fut jeté à terre. Alors on le comprend car ici l'offrande, le repas, il est offert à Dieu finalement. Il y a le même menu finalement, il y a les produits végétaux qui viennent de la terre, il y a aussi l'agneau qui est rôti, c'est ça. Et c'est offert à Dieu, l'offrande. Elle consiste à s'attirer les bonnes grâces de Dieu en lui offrant un banquet finalement. Un Dieu qu'on suppose être sensible à la corruption ou alors au bon petit cadeau finalement. Alors on compte sur ses bénédictions en offrant des prières, en offrant des rites, en se sacrifiant pour attirer ses faveurs, comme auprès des puissants de ce monde. L'agneau, les produits agricoles sont alors un repas offert à Dieu, C'est pour ça que l'Holocauste, voilà, est entièrement brûlé et que l'homme ne mange rien de l'Holocauste. Tout est pour Dieu. Alors dans cette théologie, chacun offre à Dieu comme un échantillon de ce qu'il aime et de ce qu'il espère. Abel offre le plus beau de son troupeau, un échantillon de ce qu'il y a de plus beau, de meilleure santé dans son troupeau, et en espérant que voilà, son troupeau va être florissant et puis que sa famille aussi sera bénie. Caïn, lui, il offre un pourcentage de ses légumes, de son pain, de sa salade de roquette peut-être, et puis dans l'espérance de belles et bonnes récoltes l'an prochain et que toute la famille soit bénie, elle aussi. Mais on voit dans ce texte que ça ne marche pas si facilement que ça, finalement. Caïn est déçu que son offrande, pourtant tout bien faite, eh bien, n'ait pas rendu le bénéfice espéré. C'est vrai que ceux qui sont dans cette théologie du donnant-donnant avec Dieu ont à peu près, comme dans cette histoire, une chance sur deux d'être déçus, finalement. Combien de personnes sont éprouvées dans leur foi et même perdent la foi, finalement, ne se considérant comme pas exaucées, alors qu'elles espéraient bien qu'ayant offert à Dieu des prières, ayant tout bien fait, les rites comme il faut, les sacrifices, payer la dîme pour Dieu ou pour le clergé, pour leur église, je ne sais pas, ayant fait des prières hyper ferventes au nom de Jésus-Christ, ayant eu plein de foi, s'étant mis tout un groupe de prières, espérant que ça convaincrait Dieu de faire tomber sa bénédiction. Et ces personnes sont, une fois sur deux, déçues de ne pas être récompensées en trouvant l'homme ou la femme de sa vie, de ne pas être guéries de leur maladie, de ne pas trouver le logement qu'ils attendaient, ni même parfois avoir le pain et le toit que nous aimerions finalement, bien sûr, pour chacun. Alors, ça ne marche pas comme ça, en fait. Dieu ne fonctionne pas comme une boutique. Il n'attend pas de sacrifice pour qu'il nous pardonne, pour nous bénir et pour nous aimer. Et si nous avons des malheurs, bien entendu, ce n'est pas la faute que Dieu ne fasse rien, ne fasse pas tout ce qui est en son pouvoir pour que chacune et chacun ait la vie en abondance. Caïn et Abel, ils offraient un repas à Dieu. C'est à lui qu'ils offraient l'agneau immolé, la farine pétrie dans l'huile et la salade amère. Au contraire, lors du repas de la Pâque, c'est une toute autre théologie, un autre rite, ce sont les hommes et les femmes, c'est nous qui mangeons le repas, l'agneau, le pain, les herbes amères, et nous le mangeons avec la bénédiction de Dieu. Caïn et Abel, ils offraient chacun un sacrifice pour son propre compte, à lui tout seul, dans son petit coin, chacun finalement dans son petit commerce de sa religion, donnant à Dieu sa louange pour toutes les bénédictions de l'année précédente, enfin bon, pas tout quand même, une partie, une de la dîme par exemple, et puis en offrant son sacrifice, en espérant finalement des bénédictions futures l'année suivante. Au contraire, la place de Dieu là, dans le repas de la Pâque, elle n'est pas celle d'un Dieu qu'il faudrait nourrir, qu'il faudrait acheter à coup de sacrifice, mais celle d'un Dieu qui nous aime avant même finalement que nous l'ayons aimé, un Dieu qui a déjà mobilisé tout pour nous sauver. Un Dieu qui nous ouvre les yeux sur nos propres richesses, en fait, et qui nous promet d'en faire des miracles pour notre existence. Et pour cela, il nous invite, on le voit dans le texte, à tout bien préparer, à mobiliser nos propres ressources présentes, pas celles que nous n'avons pas encore, ce que nous avons, pour que le manger ensemble, partager, que ceux qui n'ont pas assez, qui partagent avec, que ceux qui ont trop partagent avec ceux qui n'ont pas assez, puis que finalement il y en ait assez pour tout le monde, et puis qu'on puisse ainsi investir les richesses que nous avons, la richesse que nous sommes, investir dans de la force pour se mettre en route, les investir aussi dans une solidarité, retisser du lien, parce que c'est seulement tous ensemble, finalement, que nous pourrons être sauvés par Dieu. Alors il nous appelle, dans ce texte de l'Évangile que nous avons entendu, à nous rassembler dans une grande salle haute, à nous rassembler, oui, dans un groupe quand même assez important, dans une certaine élévation de notre être, de notre attente, de notre espérance, de notre écoute, de notre réflexion. Et Jésus nous invite ensuite à rendre grâce à Dieu autour de ces choses que nous avons rassemblées et qui sont la richesse que nous avons, que nous sommes, Et c'est une façon, je crois, de lui permettre de faire des miracles avec le peu que nous avons, des miracles de résurrection et de vie, au-delà de la simple élévation que peut permettre notre réflexion, notre prière personnelle, notre solidarité humaine, non, qu'il y ait vraiment quelque chose qui est de l'ordre du miracle. Tout étant ainsi préparé, et les ressources, les personnes et l'appel de Dieu, nous sommes invités à manger et prendre ainsi des forces. Donner et prendre ainsi ce qu'il y a de délicieux et ce qu'il y a de nourrissant dans ce que nous avons et dans ce que nous sommes, à l'image de cet agneau rôti, et l'Exode insiste bien, rôti, pas bouilli, et donc 1-0 pour la gastronomie française par rapport à la gastronomie anglaise, désolé, mais c'est comme ça, j'y peux rien, c'est pas ma faute. Nous sommes invités à donner et à prendre aussi des herbes amères, ce qui rend, voilà, partager aussi ensemble ce qui est amer dans notre vie ou dans celle de nos frères et sœurs, et puis à le goûter ensemble dans la compassion finalement, dans l'empathie. Nous sommes invités à manger notre pain quotidien aussi, le pain sans levain, cuit à la hâte, en vitesse, dans la plus grande simplicité, dans la conscience aussi de l'urgence que nous avons, il n'y a pas le temps de faire de la brioche, de laisser lever trois fois de suite, urgence de nous mettre en route aujourd'hui. Alors le sens même de ce repas de la Pâque, c'est que Dieu fera tout le reste, fera des miracles de libération, des libérations de tous ces pharaons finalement, qui sans cesse nous empêchent d'avancer sur notre cheminement, empêche de vivre notre propre vie selon notre sensibilité, notre personnalité, tous ces interdits qui nous empêchent de penser comme nous le pensons sincèrement et de rendre grâce à Dieu là où nous avons envie, comme nous avons envie, en sincérité. Ce repas est un rassemblement de toutes nos forces qui sont bien plus grandes que ce que nous le pensions en fait. Nous pourrons alors avancer un pas après l'autre sur le chemin de cette libération avec l'aide et avec l'éclairage de Dieu dans les déserts. Il fera des miracles pour nous permettre des franchissements improbables, de traverser des mers, des déserts, des fleuves, traverser même nos regrets de notre esclavage passé, de nos déceptions, de notre amertume. Ce repas de la Pâque, c'est une simple préparation pour vivre ces miracles de Dieu, et puis vivre aussi une purification, puisque souvent la traversée de la mer Rouge et la mort des soldats de Pharaon évoquent une purification de ce qui en nous est encore souffrant, de ce qui est en nous encore mauvais. Et donc oui, cette traversée du pardon, elle est offerte gratuitement, bien évidemment sans avoir le prix à payer du sang, évidemment, car Dieu aime d'amour, même le pécheur que nous sommes, même Judas qui est ici et qui trahit. Et parce qu'il nous aime, il nous aide à nous laver de tout ce qui peut nous encombrer. Alors par rapport à la théologie du repas qui est offert à Dieu pour lui attirer ses bénédictions, à coup de sacrifice, eh bien le repas de la Pâque nous invite donc à une toute autre théologie, celle d'un Dieu qui transcende ce que nous sommes et qui donne la vie à ce que nous sommes, à nos richesses en fait. À notre être. Un Dieu qui n'a pas besoin d'être acheté en quoi que ce soit pour chercher à nous sauver, qui cherchait avant même que nous le prions, avant même que nous crions. Un Dieu qui sauve chacun individuellement, mais qui sauve aussi avec les autres en nous unissant en un corps. Mais lors de ce dernier repas, Jésus nous invite à faire un pas de plus, je crois, dans l'évolution de notre relation à Dieu. Dans notre conception du repas religieux, nous avons quitté donc l'autel, A-U-T-E-L, des sacrifices, sacrifices offerts à Dieu pour acheter sa bénédiction. Nous sommes arrivés au repas du type auberge espagnole, où chacun sort ses richesses qu'il a dans son sac, comme dans la multiplication des pains, et puis le met en partage, un bout de pain, une feuille de salade, une tranche de gigot. Met ça sur la table d'hôte, béni par Dieu, et puis miraculeusement, il y en a assez pour tout le monde. Après avoir partagé ce repas de la Pâque, le Christ nous invite carrément à un autre repas. Alors maintenant, c'est à l'hôtel, mais pas l'hôtel A-U-T-E-L, mais H-O-T-E-L, hôtel, palace, menu complet, pension complète. Il n'y a qu'à venir finalement, même sans nos richesses, sans rien apporter, sans argent, sans rien payer, nous dit Ésaïe, à glisser les pieds sous la table et à manger. À l'image du pain, de la manne qui est offert dans le désert sans que les Hébreux aient quoi que ce soit à tirer dans leur sac. Et puis l'eau qui coule du rocher, un rocher qui marche pour les suivre miraculeusement. Et puis ces cailles qui offraient de la viande à glisser dans le pain pour boire ensuite un coup d'eau par-dessus pour faire passer. Tout cela était offert par Dieu lui-même dans ce cheminement. Oui, là, on est vraiment à l'autel, pension complète. Nous sommes alors à l'antipode, finalement, de ce Dieu qui a soif de sacrifice, soif de qu'on le nourrisse, qu'on le paye pour accepter de pardonner et de sauver. Nous sommes passés pleinement d'une religion de marchandage à celle de la grâce totale. Mais en Christ, le menu de la pension complète offert par Dieu n'est pas de la manne, de l'eau et des cailles. Les Hébreux ont pu avancer, c'est vrai, grâce à cette nourriture dans le désert, ce menu offert par Dieu. Et cette nourriture, elle nous permet aussi d'avancer dans notre existence, je pense, avec la manne qui évoque une source de questionnement, avec la lecture de la Bible, avec la prière, avec le culte, avec le partage de la scène, avec tous ces outils que nous avons à travers la réflexion, la solidarité humaine, la recherche de Dieu. Mais comme les Hébreux ont bien cheminé dans le désert, mais finiront par mourir, la nourriture que Dieu nous offre en Christ est d'un autre ordre encore que cette hygiène, cet exercice de nourriture humaine, finalement. La nourriture que Dieu nous offre en Christ est d'un autre ordre et elle donne la vie éternelle. Et cette nourriture, c'est le corps et le sang du Christ. Les disciples de Jésus sont quand même pas idiots et ils comprennent bien que ces paroles sont pas à prendre au pied de la lettre, comme le dit l'évangile selon Jean au chapitre 6, qu'il faut les comprendre comme des paroles. Ces paroles sont esprit et vie. Et effectivement, ils le comprennent bien. Quand Jésus dit « mangez ma chair, buvez mon sang », ils se précipitent pas, les incisives et les canines en avant pour lui mordre le beefsteak, un beefsteak dans le bras, ou pour l'égorger et boire son sang. Quelle horreur. Pourtant, oui, par l'Esprit, eh bien Jésus, le Christ, est vraiment une nourriture, un pain quotidien qui donne la vie éternelle. Et cette nourriture, oui, c'est quelque chose qui est de l'ordre du miracle, du transcendant, quelque chose qui est de l'ordre de l'Esprit. Et nous sommes invités à le prendre chaque fois que nous mangeons du pain de farine, une bouchée de pain, chaque fois que nous mangeons une feuille de salade, surtout si elle est amère, et que nous mangeons une tranche de viande pour ceux qui en mangent. Amen.